Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est-ce que la trisomie 21? Un texte de la rédaction paru sur la page du regroupement pour la trisomie 21. La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est un état chromosomique congénital provoqué par la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Les personnes ayant la trisomie 21 présentent des signes cliniques distincts, un retard cognitif et des caractéristiques morphologiques et physiologiques particulières. Toutefois, ces éléments sont variables d'une personne à l'autre. L'incidence de natalité est d'environ 1 cas pour 770 naissances vivantes dans la population générale. Il croît avec l'âge maternel. Consultez notre brochure « 21 questions sur la trisomie 21 » disponible sur la page trisomie.qc.ca pour obtenir réponse aux questions les plus souvent posées sur cet état. Profitez-en pour jeter un œil sur notre document « Comment parler de trisomie 21 » afin d'utiliser les termes appropriés. Le syndrome. C'est le docteur Édouard Séguin qui, le premier, identifie les caractéristiques des personnes ayant la trisomie 21, au milieu du 19e siècle. Quelques années plus tard, le docteur John Langdon Hayden Down précise davantage ses caractéristiques et, dès lors, on utilisera l'appellation « syndrome de Down » pour désigner les personnes concernées. Enfin, c'est en 1959 que le professeur Jérôme Lejeune, docteur Marthe Gauthier et Raymond Turpin établissent le lien entre les caractéristiques observées chez les personnes ayant le syndrome et une anomalie chromosomique. Le syndrome de Down, ou trisomie 21, n'est généralement pas héréditaire et est causé par la présence d'un chromosome surnuméraire à la 21e paire. Les personnes ayant la trisomie 21 ont donc 47 chromosomes dans une cellule plutôt que 46. Les trois types de trisomie 21. Les recherches ont permis de déterminer que cette anomalie chromosomique, qui est le résultat d'une non-disjonction, peut se présenter sous trois formes différentes qui donnent lieu à trois types de trisomie 21, soit la trisomie libre, la trisomie mosaïque et la trisomie par translocation. La trisomie libre. La trisomie libre touche environ 95 % des personnes ayant une trisomie 21. Elle est le résultat d'une erreur de distribution des chromosomes qui se produit lors de la première division cellulaire. Elle affecte toutes les cellules du corps humain. La trisomie mosaïque. La trisomie mosaïque se produit lors de la deuxième division cellulaire et touche environ 2 % de la population des personnes ayant une trisomie 21. Dans ce cas, il y a combinaison de cellules qui ont 46 chromosomes et de cellules qui en ont 47. Les personnes ayant une trisomie mosaïque présentent parfois des différences comparativement aux autres personnes ayant une trisomie libre. Trait physique moins apparent, potentiel cognitif plus présent, etc. Il faut toutefois éviter de conclure que ces personnes seront moins affectées par la trisomie, car on ne peut savoir quelle cellule comporte un troisième chromosome. La trisomie par translocation. Dans ce type, on dénombre environ 3 % de personnes ayant la trisomie 21. La trisomie par translocation signifie qu'il y a eu bris d'une partie du chromosome 21. Dans ce cas, l'enfant reçoit ce chromosome transloqué dans son bagage génétique de l'un des parents, qui est lui-même porteur, bien qu'il ne soit pas affecté par le syndrome. Une rencontre avec un généticien permettra de vérifier les risques de donner naissance à un autre enfant porteur d'une trisomie. Les traits physiques. Les yeux bridés, résultat de la présence d'une mince couche de peau au coin des yeux, sont la caractéristique première observable chez la personne qui a une trisomie. On constate également un visage rond, un crâne petit, des oreilles souvent plus basses, des pommettes quasi inexistantes, une bouche plus petite, des lèvres très minces et parfois une difficulté à contrôler les muscles de la langue. Enfin, la personne a des jambes et des bras assez courts, un seul pli palmaire dans la paume des mains et un tonus général plus faible. Ces signes physiques sont plus ou moins prononcés selon les personnes. En outre, à l'instar de tout autre, la personne ayant une trisomie 21 est aussi porteuse de l'hérédité familiale qui lui confère des traits bien personnels et reconnaissables. La déficience intellectuelle et le développement. Les effets de la trisomie 21 sur le développement varient d'une personne à l'autre. Bien que la déficience puisse parfois être profonde, les personnes porteuses présentent une déficience intellectuelle allant généralement de légère à modérée. L'OMS qualifie un QI entre 50 et 69 de retard léger. Par conséquent, avec de la stimulation et des moyens adaptés, la plupart de ces personnes sont capables de s'intégrer à la société de façon autonome à l'âge adulte. L'expérience a prouvé qu'il est possible d'intervenir dès le jeune âge par la stimulation précoce et ainsi aider au développement moteur, au développement intellectuel et au développement du langage. Stimuler le développement d'un enfant ayant la trisomie 21 ne diffère pas tellement de la façon de stimuler tout autre enfant. Il s'agit de l'inciter à avoir confiance en lui, de l'encourager à faire des projets, de soutenir le développement de ses habiletés sociales, de souligner ses forces et de le rendre fier de ses réussites, de nommer ses progrès, d'écouter son point de vue. Outre l'engagement des parents, les conseils de spécialistes permettront de soutenir le développement de l'enfant ayant une trisomie 21 pour qu'il puisse s'épanouir et se réaliser comme tout autre enfant. Quant à la scolarisation des enfants ayant une trisomie 21, que le choix se porte sur les écoles traditionnelles ou les classes spécialement encadrées, elle est non seulement possible, mais essentielle. Avec du matériel adapté et le soutien des parents, des enseignants et de tout le milieu pédagogique, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture peut aussi leur être accessible en fonction de leur potentiel personnel. Les soins de santé. En plus d'un déficit du développement cognitif, les personnes ayant la trisomie 21 présentent souvent un ensemble varié de malformations congénitales comme des cardiopathies. Cependant, l'espérance de vie, et de vie en bonne santé, s'est beaucoup améliorée depuis que l'on contrôle, dès l'enfance, les problèmes liés au cœur et aux poumons. On constate également des anomalies musculo-squelettiques chez les personnes ayant la trisomie 21 qui peuvent engendrer certains problèmes. Près de 30 % de la population ayant la trisomie 21 présente l'une des anomalies suivantes. Luxation, dysplasie acétabulaire, hyperlaxité articulaire, hypotonie musculaire, instabilité articulaire, manque de contrôle des mouvements volontaires et de l'équilibre statique et dynamique. Grâce aux progrès de la médecine, à une meilleure hygiène de vie et à des soins préventifs, on assiste maintenant, de plus en plus, au passage des enfants ayant une trisomie 21 au statut d'adolescent et d'adulte. Conséquemment, les problématiques associées au vieillissement touchant la clientèle T21 deviennent, au fil des ans, un enjeu majeur de l'organisme. C'était « Qu'est-ce que la trisomie 21? » un texte de la rédaction paru sur la page du regroupement pour la trisomie 21.
Un ancien refuge pour sans-abri, converti en complexe de 142 appartements à Québec. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir. Les anciens locaux du refuge pour sans-abri L'Aube-Rivière accueilleront un complexe immobilier innovant de 142 logements à l'horizon 2027. La conversion du bâtiment prévoit la conservation de la façade de style château et un important verdissement dans le secteur. Vide depuis le départ de L'Aube-Rivière en 2021, vers des nouveaux locaux plus spacieux, situés à quelques pâtés de maisons, le 401 rue Saint-Paul verra apparaître d'ici 2 ans des appartements allant du studio jusqu'au 6,5, dont les loyers varieront entre 1100 $ et 3300 $. Le rez-de-chaussée, présentement placardé, accueillera pour sa part des commerces de proximité. C'est le groupe familial C76 Investissement qui propose de redonner vie à l'un des bâtiments emblématiques du Vieux-Québec, explique le président de la société, Jérôme Côté. Originalement, l'hôtel Château-Champlain, qui a par la suite servi la communauté avec l'Aube-Rivière, il entame un nouveau chapitre de son histoire. Une facture de 52 millions de dollars. La construction du complexe nécessite 52 millions de dollars. La ville apportera une contribution d'au moins 3 millions de dollars pour le concrétiser, soit une aide de 545 000 $ pour encourager la durabilité de l'immeuble et au moins 2,5 millions de dollars sous forme de congés de taxes pendant une période de 10 ans. Sans cette aide-là, il n'y avait pas de projet, indique Jérôme Côté, et les loyers seraient encore plus chers sans ce congé de taxes. Le 401 utilisera la géothermie pour se chauffer à faible coût énergétique et recyclera autant que possible l'acier prélevé dans les annexes du bâtiment actuel qui seront démolis pour faire place au complexe de 4 étages. La façade, caractéristique du style château, avec son avant-corps au coin des rues Saint-Paul et Vallière, son toit à croupe à 4 versants, assorti d'une corniche en cuivre, et sa toiture à lucarne sera en partie préservée. Une nouvelle construction s'ajoutera à l'arrière et sur le côté du bâtiment actuel, sans pour autant sacrifier l'intérêt architectural supérieur de l'ensemble. Ce n'est pas de la gentrification pour le maire. Le maire de Québec, Bruno Marchand, salue un développement susceptible de ramener une population permanente dans le Vieux-Québec et de contribuer à la vitalité du quartier Saint-Roch, limitrophe de l'ancien refuge. Ce n'est pas de la gentrification, soutient-il. C'est le contraire de la gentrification. Personne ne déloge l'Aube-Rivière. Le nouvel espace se trouve à 200 mètres. Ce que c'est, ce sont des ruines sur quoi nous allons faire du beau, de la lumière, et amener du monde qui va contribuer à l'économie du secteur. Le maire a aussi indiqué qu'à ses yeux, c'est une bonne nouvelle que des loyers à 3000 $ se construisent à Québec. Tant mieux si des gens riches veulent venir habiter ici, a indiqué l'élu. Par contre, c'est évident qu'il ne faut pas que ce soit juste des unités haut de gamme qui se construisent au centre-ville. Bruno Marchand en a profité pour vanter la contribution de son administration en matière de logement social, citant notamment la reconversion de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul et pour rappeler que le gouvernement du Québec devait lui aussi se montrer au rendez-vous. Réservé aux riches, selon les oppositions. Les oppositions à l'hôtel de ville accusent son administration de livrer le centre de Québec aux plus nantis. C'est un projet qui est quasiment parfait, concède la conseillère de Limoilou et chef du Parti écologiste Transition Québec, Jackie Smith. On veut voir des bâtiments patrimoniaux qui se sont recyclés. On veut un verdissement et des plus grands logements dans les quartiers centraux. On veut des bâtiments éco-énergétiques. C'est juste qu'il faut que tout ça, ça vienne avec un prix qui est accessible à la population. Le parti Équipe Priorité Québec critique pour sa part l'idéologie verte de l'administration en place. Les crédits de taxes ne construisent pas de logements abordables. Critique Patrick Paquet, le chef non élu du parti. Ils permettent aux plus fortunés d'accéder à de nouveaux projets, pendant que les travailleurs et les familles modestes sont laissés derrière. Après une vaste opération de désamiantage menée dans les anciens locaux de l'Aube-Rivière au cours de la dernière année, C76 espère que le chantier se mettra en branle cet été. C'était un ancien refuge pour sans-abri converti en complexe de 142 appartements à Québec. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir.
Le papier le plus difficile, un texte d'Isabelle Picard, paru le 2 mars 2024 dans La Presse. Le 6 de la Naudière sera finalement visé par une action collective intentée au nom de femmes atikamekw qui allèguent avoir été stérilisées sans leur consentement. Notre collaboratrice Isabelle Picard saisit l'occasion pour dénoncer cette pratique oppressive. En langue atikamekw, le mot « enfant », « awasik », signifie « petit être de lumière ». La signification est similaire dans la plupart des langues autochtones. L'enfant, c'est l'espoir, le futur, le renouveau. Tout le monde prend soin de lui. Dans les sociétés autochtones, traditionnellement circulaires, l'enfant est au centre de tout. Il y a même des sociétés, chez les nations iroquoiennes par exemple, où les réprimandes n'étaient, avant la colonisation, jamais faites par le père, trop près de l'enfant. C'était l'oncle qui assurait cette tâche avec bienveillance, patience. Ainsi, on s'assurait d'un degré de séparation suffisant pour protéger l'enfant et les liens familiaux. Les Jésuites et les Récollets, qui nous ont côtoyés au début du XVIIe siècle et même après, ont d'ailleurs été surpris par le peu de discipline qui existait au sein des sociétés autochtones à leurs yeux, qualifiant les enfants d'êtres libres et bien traités. Les Jésuites ont témoigné que jamais ils n'avaient vu de châtiment corporel porté à un enfant et qu'il était mal vu dans la société Wendat d'humilier quiconque, mais particulièrement un enfant. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu la brillante idée de revenir du camp de jour sur mon vélo, en tenant mon parapluie jaune sur mon guidon, pendant vers le sol. Tout au bas de ma longue rue, à plusieurs maisons de chez moi, là où je ne connaissais personne, mon parapluie s'est coincé dans ma roue et j'ai fait un salto avant involontaire. J'ai crié dans ma chute. Une dame est sortie de sa maison en trombe. Je ne l'avais jamais vue. Elle m'a dit « Tu es la fille de Richard Picard? Viens, je vais t'aider. » Elle l'a fait comme une mère. J'ai su plus tard que c'était Madame Sioui. Aucun lien de famille ni relation particulière avec mes parents. L'enfant est au cœur des communautés. C'est encore vrai à notre époque. Peut-être un peu différemment, avec une certaine distance, mais jamais vraiment loin. La première fois que j'ai entendu parler de stérilisation forcée envers les femmes autochtones comme d'un acte organisé, c'était il y a une dizaine d'années seulement. Avant, je croyais à 2 ou 3 cas isolés, menés par des médecins à tendance eugéniste ou qui regardaient la vie d'une patiente, jugeant son avenir avec, à tout le moins, des lunettes ethnocentriques. Puis, davantage de voix se sont fait entendre. Entre 1980 et 2019, au moins 22 femmes autochtones ont été forcées à la stérilisation, selon le rapport « Consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuits au Québec », dirigée par la professeure Suzy Basile, elle-même atikamekw, publiée en 2022. Elles sont 55 si on considère aussi la violence obstétricale. Il y en a beaucoup plus, admettait l'an dernier la professeure Basile, alors que les langues se déliaient au sein des communautés sur ce sujet encore tabou. On peut le comprendre. C'était hier, c'est aujourd'hui. Pourtant, le gouvernement du Québec a longtemps nié l'existence d'une telle pratique dans sa province, refusant même de participer aux travaux lancés en 2018 par le gouvernement fédéral sur le sujet. Il y a quelques jours, la Cour d'appel du Québec a autorisé, après de nombreux soubresauts, une action collective déposée par deux femmes atikamekw de Manawan contre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, ainsi que trois médecins, précisément pour des stérilisations subies sans consentement libre et éclairé, et ce, depuis décembre 1971. J'écris dans les pages de la presse depuis 2017. Jamais je n'avais écrit sur la stérilisation forcée des femmes autochtones. Pour être honnête, c'était volontaire, sans doute à cause d'un manque de courage. J'ai remis ce papier maintes et maintes fois. Comme femme, je ne peux concevoir que quelqu'un d'autre décide de la vie que tu porteras en toi. Jamais. Dans aucun contexte. Dans aucune culture. Parce que derrière cet acte non consenti se cache une ombre de supériorité sur le destin de toutes ces femmes, une hauteur malsaine que je ne peux admettre. Plus jamais il ne faut que ça arrive. Bravo à celles qui se font entendre et qui se battent avec courage. À ceux et celles qui les épaulent, vous m'avez aujourd'hui montré le chemin. C'était le papier le plus difficile, un texte d'Isabelle Picard, paru le 2 mars 2024 dans la presse.
L'intolérable exception, un texte de Michel David, paru le 13 février 2025 dans Le Devoir. Depuis la naissance de la Fédération canadienne, le Québec s'est acharné à affirmer sa différence et il y est largement parvenu malgré un environnement qui ne la favorisait pas. Le modèle québécois n'est cependant pas nécessairement meilleur parce qu'il est distinct. Vouloir se distinguer ne doit pas empêcher de s'inspirer des meilleures pratiques, notamment dans un domaine aussi universel que la santé. C'est ce que le Collège des médecins du Québec a signifié au gouvernement Legault, en lui recommandant d'interdire la désaffiliation des médecins du régime public, comme l'Ontario l'a fait il y a 20 ans. Autrement dit, d'interdire la prestation de soins de santé à des fins lucratives. L'exception québécoise ne devrait pas être tolérée. L'État devrait agir de façon courageuse, peut-on lire dans le mémoire que l'organisation a présenté mardi en commission parlementaire. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a salué sa recommandation, mais il ne s'est pas engagé à y donner suite. Il a déclaré l'automne dernier que le réseau devrait se sevrer du recours au privé, mais le projet de loi 83, une première étape, a-t-il dit, prévoit simplement d'imposer 5 ans de pratique au public avant qu'un jeune médecin soit autorisé à se désaffilier. Il est vrai que seulement environ 770 médecins sur plus de 22 000 se sont désaffiliés en 2024, soit 4,8% des médecins de famille et 2,3% des spécialistes, mais cette proportion augmente chaque année et représente 98% de ceux qui ont fait ce choix dans l'ensemble du Canada. Il existe un point de non-retour au-delà duquel une tendance devient irréversible. Dans son rapport annuel 2024, le regroupement des médecins québécois pour un régime public, MQRP, constate qu'un changement significatif s'est produit au cours de la dernière décennie, tant dans les décisions gouvernementales que dans l'opinion publique, qui a eu pour effet de rendre la privatisation du système de santé de plus en plus acceptable. Même si la proportion des dépenses consacrées à la santé par rapport à l'ensemble des dépenses gouvernementales ne cesse d'augmenter, La pression exercée sur les finances publiques a permis de justifier le recours accru au privé. Le rapport du MQRP pointe également du doigt les médias, dont les nombreux reportages sur les ratés du réseau public. Attentes interminables, pénurie de personnel, infrastructures obsolètes ont miné la confiance du public et rendu plus acceptable le recours au privé. Beau cas de conscience journalistique, devrait-on passer ces lacunes sous silence de crainte de favoriser l'émergence d'une médecine à deux vitesses? À ce compte, les partis d'opposition devraient également mettre une sourdine à leurs critiques. À l'Assemblée nationale, la menace trumpiste ne les empêche pas de rapporter, jour après jour, de nouvelles histoires d'horreur dont le ministre de la Santé ne peut que se désoler. Plaider que la situation était pire quand les libéraux étaient au pouvoir n'empêche pas la population d'avoir une perception de plus en plus négative du réseau public. Il y a 20 ans, l'ADQ demandait pourquoi le propriétaire de 3 Mercedes ne pourrait pas en vendre une pour se faire soigner au privé. Il y a aujourd'hui des gens qui vendent leur unique voiture, bien moins luxueuse, pour recevoir des soins que le réseau public est incapable de leur offrir dans un délai raisonnable. Les cliniques privées ne peuvent opérer que grâce à un personnel qui permettrait au réseau public de mieux performer, mais peut-on reprocher à celui qui a besoin de soins urgents de nuire au bien commun si payer est la seule façon de recevoir ces soins? Il est vrai que les conditions de travail sont plus agréables dans le privé, où les horaires sont plus réguliers et les cas moins lourds, mais un chirurgien incapable d'avoir accès à une salle d'opération dans un hôpital public manque-t-il d'éthique s'il choisit d'aller pratiquer au privé? Il n'y a pas que la médecine privée qui se développe plus rapidement au Québec que dans le reste du pays. Le défunt Conseil supérieur de l'éducation avait aussi décrit l'école québécoise comme la plus inégalitaire au Canada. S'il y a maintenant une école à deux ou même trois vitesses, c'est parce que de nombreux parents qui ne demanderaient pas mieux que d'envoyer leurs enfants à l'école publique s'en sont détournés au fur et à mesure de sa détérioration. L'école privée est maintenant enracinée trop profondément pour qu'il soit réaliste d'envisager un réseau scolaire unique et public. La médecine privée n'est peut-être pas encore aussi répandue, mais ce qu'on observe dans le réseau public n'est pas de nature à en freiner l'expansion. C'était « L'intolérable exception », un texte de Michel David paru le 13 février 2025 dans Le Devoir.